Il est 5h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. Vous êtes toujours sur RFI. L'actualité africaine. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Clotilde Dumay et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, réunion décisive aujourd'hui au Mozambique. Les quatre candidats à l'élection présidentielle du 9 octobre doivent rencontrer le président, Felipe Nyusi. Chacun ses conditions, mais les trois représentants de l'opposition sont d'accord. Il faudra discuter de l'annulation des élections générales qu'ils jugent irrégulières. L'opération policière à Stilfontein ne va pas à l'encontre des principes de la Constitution. Décision hier de la haute cour du Roteng en Afrique du Sud. Des mineurs illégaux sont toujours retranchés à 2 km sous terre dans une mine au sud-ouest de Johannesburg. La RDC mérite d'aller dans un régime présidentiel. La phrase est signée Blanchard Bongombe, le secrétaire général du parti d'opposition Nouvel Élan se dit favorable à une révision de la Constitution, mais pas sans condition, vous l'entendrez. Au sommaire également, on évoquera ce rapport alarmant de l'Observatoire des situations de déplacement interne sur l'Afrique. Et puis direction Madagascar, on a rendez-vous au musée de la photographie d'Antananarive pour visiter une exposition consacrée à l'architecture traditionnelle malgache. Elle doit permettre de sortir de la crise. C'est une réunion déterminante qui doit se tenir aujourd'hui au Mozambique. Rencontre entre le président Felipe Nyusi et les quatre candidats à l'élection présidentielle du 9 octobre. La contestation électorale se poursuit dans le pays à l'appel de Venancio Mondlane, le candidat d'opposition déclaré deuxième par la commission électorale. Mais Gaël Lalex, beaucoup de doutes subsistent sur la tenue de cette rencontre.
Sur le principe, ils sont tous d'accord pour dialoguer, mais chacun a ses conditions. Daniel Chapeau, candidat du Frelimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance et vainqueur de la présidentielle selon la commission électorale, a été le dernier à répondre. Un simple communiqué du parti a confirmé hier sa présence et son engagement pour la stabilité politique du pays. Cette rencontre n'est pas pour le réjouir, car les trois candidats de l'opposition sont d'accord sur un point. Il faudra discuter de l'annulation des élections générales du 9 octobre qu'ils estiment irrégulières. Lutero Simangu, le candidat du Mouvement démocratique du Mozambique, et Osufo Momad de la RENAMO, les deux principaux partis d'opposition, en ont fait une condition sine qua non. Ce dernier exige aussi la présence des quatre candidats. Or, celle de Venancio Mondlane, candidat indépendant, semble incertaine. Vendredi, le leader des protestations post-électorales a posé ses conditions, notamment la fin des poursuites judiciaires à son encontre, des indemnisations pour les victimes de la répression policière et une participation en visioconférence. La présidence ne s'est pas encore exprimée sur ses exigences. La rencontre est prévue à 16h. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Des centaines de mineurs illégaux, toujours retranchés dans une mine à Stilfontein, en Afrique du Sud. La police continue de bloquer leur approvisionnement en nourriture. Plus de 1200 Zamas, c'est le nom de ces mineurs, auraient été arrêtés depuis le lancement de l'opération en 2023, d'après les autorités. Dernier rebondissement en date, hier, la haute cour du Roteng a jugé que cette opération policière d'envergure n'était pas anticonstitutionnel et donc respectait le cadre de la loi. Correspondance à Johannesburg de Valentin Hugues.
Il y a tout un débat autour du mot « piégé ». Pour les communautés locales, les mineurs illégaux sont piégés sous terre par la police parce qu'elle encercle l'entrée principale de la mine 24 heures sur 24 et coupe leur approvisionnement. C'est pour cette raison que l'ONG Société pour la protection de notre Constitution voulait contraindre les forces de l'ordre à aider ces amazamas. Mais la police répond que le puits n'est pas fermé, les mineurs illégaux peuvent sortir. Récemment, 14 personnes, dont un jeune de 14 ans, ont refait surface dans la nuit. La haute cour du Gauteng à Pretoria a donné raison à la police sud-africaine en statuant que leur opération ne va pas à l'encontre des principes de la Constitution. La cour confirme ce que nous avons toujours dit, personne n'est piégé, a déclaré la porte-parole de la police. Mais sur place, les habitants, appuyés par des associations de défense des droits humains, eux, sont clairs. Les mineurs sont bien piégés, car sans eau et sans nourriture depuis plusieurs semaines, certains sont morts, beaucoup d'autres n'ont tout simplement plus aucune force pour remonter les presque 2 km de corde qui les relient à la surface. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Inéligibilité confirmée pour Mahamat Zenbada au Tchad. Le Conseil constitutionnel a dévoilé hier la liste définitive des candidats aux législatives du 29 décembre prochain, élection boycottée par une large partie de l'opposition. Le secrétaire général du MPS, le parti de l'ancien président Déby, ne pourra donc pas y participer. Le Conseil estime qu'il s'est inscrit frauduleusement sur les listes électorales et dissimulé sa condamnation pour détournement de fonds publics. L'actualité politique en RDC, toujours marquée par le débat pour ou contre le projet de révision ou de changement de la Constitution. Hier, une nouvelle voix a rejoint le camp du oui et elle vient de l'opposition. Le parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a soulevé hier plusieurs questions qui devraient être révisées, mais il pose une condition, que la commission préparatoire soit chapeautée par un opposant. Écoutez Blanchard Bongombé, le secrétaire général du Nouvel Élan.
Nous pensons qu'il faut réviser un certain nombre de dispositions pour nous permettre justement de matérialiser notre politique de la titrisation de terres, l'effectivité de la décentralisation. Nous parlons également du bicéphalisme au niveau de l'exécutif. Aujourd'hui, notre pays mérite d'aller dans un régime présidentiel pour permettre au chef de l'État d'assumer pleinement ses fonctions pour éviter ce qu'on a qualifié de gouvernement parallèle. Mais également, nous parlons de la répartition de recettes à caractère national et provincial. Donc, il y a tas de questions que nous pensons faire apparaître dans la nouvelle constitution. Nous saluons la proposition du chef de l'État de mettre en place une commission préparatoire. Nous pensons que va devoir travailler de manière indépendante. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il faut qu'à la tête de cette commission soit désigné un opposant de manière à équilibrer les choses pour que les uns et les autres soient entendus, de manière à privilégier ce qui est salutaire pour notre peuple, de manière à avoir une constitution républicaine. On est vraiment dans une démarche républicaine qui consiste à réhabiliter le peuple dans sa souveraineté.
Blanchard Bongombé, le secrétaire général du parti d'opposition RDC Nouvel Élan, au micro RFI de Pascal Moulégois. Le débat autour du projet de révision ou de changement de constitution en République démocratique du Congo. On en parle aussi avec notre invité ce matin, Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, et sur notre antenne, entretien à écouter juste après ce journal et en version longue sur notre site www.rfi.fr. Ces rumeurs sont fausses, communiqué hier de l'ambassade des États-Unis au Gabon, qui dément avoir accordé l'asile à Hervé Patrick Opianga. L'ancien ministre des Mines est introuvable depuis le 20 novembre dernier, date à laquelle il a reçu une convocation de la police judiciaire, convocation restée sans réponse. L'homme d'affaires est également visé par une seconde plainte pour violence, inceste, séquestration et usage de faux. Ses proches dénoncent un harcèlement politique alors qu'Hervé Patrick Opianga a fait campagne pour le non lors du référendum pour le projet de nouvelle constitution. 35 millions, c'est le nombre total de déplacés internes en Afrique. C'est trois fois plus qu'il y a 15 ans. Conclusion alarmante du dernier rapport de l'IDMC, l'Observatoire des situations de déplacement interne. En cause, la guerre et les catastrophes naturelles. Sauf que parfois, eh bien, les deux problématiques s'entremêlent. RFI Genève, Jérémy Lanche.
Au-delà du nombre total de déplacés, ce qu'il faut comprendre du dernier rapport de l'IDMC, c'est qu'on ne réglera pas la question du déplacement tant que les crises se superposent les unes aux autres. On le voit en RDC, on le voit aussi désormais au Soudan, qui a enchaîné la guerre au Darfour avec la guerre entre généraux qu'on connaît aujourd'hui. Alexandra Bilac est la directrice de l'IDMC.
Cette réémergence de conflits qu'on voit dans certains pays comme la Somalie, le Nigeria, l'Éthiopie, etc., viennent s'ajouter à des conflits qui avaient causé des déplacements il y a déjà plusieurs années, dans certains cas même une dizaine, une vingtaine d'années, où les personnes déplacées n'ont pas trouvé de solution à leur situation et donc une augmentation du nombre total de personnes déplacées.
Cinq pays concentrent à eux seuls 80% des déplacés liés aux violences, le Soudan, la RDC, la Somalie, le Nigeria et l'Éthiopie. Mais tous ces pays subissent aussi des catastrophes qui poussent les populations à fuir. Très souvent, ce sont des inondations.
Ce sont des catastrophes soudaines à grande échelle, tandis que les sécheresses, ce sont des catastrophes plus étalées dans le temps. Donc on a beaucoup plus de mal à quantifier le déplacement lié aux sécheresses.
Si empêcher le déplacement interne semble illusoire, il est toujours possible de mieux le gérer, notamment en arrêtant de le traiter comme une question purement humanitaire, mais aussi comme un aspect du développement durable. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Direction Madagascar, avant de refermer ce journal. La Maison des Vivants, c'est le nom d'une exposition qui se tient en ce moment au musée de la photographie d'Antananarive. Rendez-vous culturel culturel consacré à l'architecture malgache et qui met en lumière les maisons traditionnelles, un patrimoine trop souvent méconnu. Visite guidée de l'exposition avec notre correspondante Sarah Teto.
Devant les maquettes représentant 14 types de maisons malgaches, une visiteuse s'étonne.
Il y en a qui sont en paille, il y en a aussi là-bas en bambou, en bois. Ben pourquoi toute cette diversité ?
Alors, le fait qu'il y ait autant de diversité en termes de matériaux s'explique par les ressources dont disposent les gens qui construisent ces maisons.
Siori Ranjamanonten est le directeur du musée de la photographie.
Dans l'Est, où on a des forêts abondantes, on utilise du bois. Sur les hautes terres, où on a une végétation assez maigre, les gens utilisent de la terre.
Autre curiosité, la hauteur des maisons qui varie parfois du simple au triple.
Cette différence de taille, elle s'explique d'abord par le mode de vie des populations. Il est évident que chez les populations semi-nomades, les maisons sont de petite taille parce qu'elles sont amenées à être déplacées au fil des migrations. Ensuite, il y a l'aspect culturel. Par exemple, chez les Bars, donc population du sud de Madagascar, la maison accueille le mari et son épouse uniquement, sans les enfants. Tandis que sur les hautes terres, la maison accueille la famille élargie. Et enfin, intervient le statut social. Plus une maison est grande, plus elle extériorise la richesse de son occupant.
Malgré toutes ces différences, les maisons conservent des caractéristiques communes.
La maison est systématiquement orientée du nord au sud et la porte tournée vers l'ouest. Et ça, en raison de croyances partagées par tous les malgaches. L'ouest, par exemple, c'est le profane, donc tout le monde peut y passer, contrairement à l'est. Partie de la maison considérée comme sacrée, réservée aux ancêtres.
Plus qu'un simple abri privé, la maison malgache traduit donc la culture et l'identité des gens qui l'occupent. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Antananarivo, il est 7h41, 4h41 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Reportage exceptionnel à Khartoum, au Soudan. Notre envoyé spécial s'est rendu dans un hôpital de la capitale après plus de 19 mois de guerre. Témoignage rare et inédit à écouter dans quelques minutes. Afrique Économie, direction ce matin l'est de la RDC. Les autorités du Nord Kivu alertent sur la perte de revenus des mines de coltan, moins 40% depuis le début de la guerre avec le M23. On évoque aussi la RDC avec notre invité ce matin, mais côté politique, avec Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. On parle du projet de